L'armée de Louvois, 300 000 soldats. Entre les guerres du petit Louis et les guerres du grand Louis, Louis demeure identique à lui-même. Il veut toujours gagner, coûte que coûte, et cette obstination finira par coûter fort cher. Pour faire plaisir à Louis Dieudonné, pour le distraire, Mazarin lui avait fait construire un fort dans les jardins du palais royal. Et le petit roi, chaque jour, simulait avec ses compagnons de jeu des batailles, des sièges, et il gagnait toujours. Cette habitude du jeu guerrier ne le quittera jamais. Le problème, c'est qu'il substitua au jardin du palais royal l'arène européenne avec les puissances prêtes à en découdre pour gagner régions et territoires. Dès que le traité des Pyrénées est signé, en 1659, Louis XIV sait qu'un jour, il déclarera la guerre à ceux avec qui il signe la paix. En effet, la dot de Marie-Thérèse d'Autriche, trop élevée, ne pourra être payée. Et si elle n'est pas payée, le roi peut réclamer l'héritage espagnol. Louis XIV va d'abord demander le Brabant espagnol, une province qui couvre aujourd'hui une partie de la Belgique et des Pays-Bas. Ayant fait travailler une petite armée de juristes sur les droits de succession brabançons, il apprend, au moment de la mort de son beau-père, qu'une coutume de cette province, appelée la coutume de la dévolution, rend héritière de cette possession la fille du premier lit du roi décédé. C'est le cas de Marie-Thérèse d'Autriche, sa femme, la reine. Il réclame donc le Brabant en 1665. Non, il va le chercher. Il le conquiert en 1667 avec Turenne, à la grande satisfaction de Colbert qui se rapproche de la Hollande, l'ennemi à abattre. L'Europe s'inquiète de ce roi conquérant qui accepte de signer le traité d'Aix-la-Chapelle le 2 mai 1668. Ce n'est pas la paix, ce n'est qu'une pause. Alors, et la Hollande ? Ces navires effectuent les 4/5 du commerce mondial. Il faudrait peut-être penser à la harceler et puis à l'écraser. Voilà à peu près ce que réclame Colbert à Louis XIV en 1670. Souhait exaucé. Le roi entre en guerre en avril 1672. Comment l'armée se présente-t-elle ? L'armée n'a plus rien à voir avec celle du siècle précédent. Michel Le Tellier, un bourgeois, ancien intendant, en a entrepris la réforme. Son fils, Louvois, la poursuivra. Turenne et Vauban les y aideront. Voilà l'essentiel de leurs innovations. Des inspecteurs généraux des armées sont créés et ils sont chargés d'élaborer des règlements précis qui devront être respectés, d'encadrer la formation des soldats. Des grades supplémentaires non achetables sont ajoutés dans la hiérarchie existante, afin que des hommes de commandement puissent être nommés sans avoir besoin de faire l'acquisition d'une compagnie, ce qui nécessitait une petite fortune personnelle et ne favorisait pas forcément que des génies militaires. Le recrutement est étendu. Dans toutes les paroisses, on recrute des miliciens parmi les hommes non mariés de 20 à 40 ans. Leurs noms sont tirés au sort. Le port de l'uniforme est généralisé. Les soldats de la maison du roi sont habillés en bleu, les Suisses en rouge et tout le reste en gris. La cavalerie perd de son importance au profit de l'infanterie, mais elle comporte encore près de 100 régiments, 50 000 chevaux. L'ensemble de l'armée, en 1700, ne comptera pas moins de 300 000 hommes.
Vauban meurt d'une bronchite. Je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l'État. C'est Louis XIV qui s'exprime ainsi à propos de celui qui vient de disparaître le 30 mars 1707 à l'âge de 74 ans, après une mauvaise bronchite. Cet homme à qui Louis XIV rend hommage s'appelle Sébastien le Prestre de Vauban. Retiré des affaires, et ses affaires c'était l'armée, la guerre, les sièges, il a écrit un livre destiné au roi et qui propose une réforme totale du système de l'imposition en supprimant les inégalités. Le livre n'a pas plu au roi, mais Vauban n'a pas été disgracié et n'est pas mort d'avoir contrarié son souverain, ainsi qu'une légende tenace le fait toujours croire. À Vauban, on doit de remarquables fortifications tenant compte des progrès de l'artillerie. 120 places fortes en bénéficient, dont beaucoup sont encore aujourd'hui intactes. Ville fortifiée par Vauban, ville imprenable. Ville assiégée par Vauban, ville prise, avait-on coutume de dire à l'époque. Et c'était vrai. Vauban a aussi introduit dans l'armée le fusil auquel il a fait ajouter la baïonnette, qui était déjà utilisée en Suède. La réalité économique et sociale, il la connaît mieux que quiconque, parcourant sans cesse la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour surveiller ses constructions ou livrer quelques batailles. Son livre « Projet d'une dîme royale » est donc l'ouvrage d'un homme de bon sens, qui aurait pu modifier le siècle à venir. Mais le roi Louis, pour ses humbles sujets, avait l'oreille si loin du cœur.